J'ai intitulé mon message ce matin, comme vous le savez, c'est un message historique, pas vraiment biblique dans ce sens-là. Tout simplement, la vie et l'époque de Jean Calvin. La vie et l'époque de Jean Calvin. Alors pourquoi? Eh bien, vous le savez que le premier jeudi de chaque septembre, ici à Genève, c'est ce qu'on appelle le Jeûne Genevois. Alors, j'ai demandé une fois à des jeunes en ville ce qu'était le Genevois. Ils ont dit, ouais, ben, c'est la fête des jeunes. Alors, c'est pas ça, d'accord? C'est pas ça. Le Jeûne Genevois, en fait, remonte en 1600, enfin vraiment 1572, disons-le, où la Sainte-Barthélemy a eu lieu à Paris, le massacre des protestants. Et Genève, qui était une ville protestante à l'époque, par solidarité pour les protestants, ont déclaré un jour de jeûne, donc où on s'abstient de la nourriture. Et donc le Jeûne Genevois, qui a été célébré, c'est encore un jour de congé ici à Genève, a eu lieu jeudi. Alors bien sûr, très peu de gens encore jeunes ou se rappellent du pourquoi, mais je me suis inspiré de ce week-end pour parler un petit peu de Jean Calvin et de Genève. Alors c'est vrai que beaucoup de gens pensent que Jean Calvin est celui qui a porté l'évangile et la réforme à Genève, mais en fait c'est pas tout à fait juste. En fait, la réforme a été amenée à Genève bien avant l'arrivée de Calvin par des hommes fidèles, des hommes qui aimaient la parole de Dieu et des hommes qui voulaient propager la bonne nouvelle de l'évangile en Europe, partout en Europe. Et l'effet de cette réforme a culminé le 21 mai 1536 lorsque la ville de Genève a officiellement adopté la réforme. On verra tout ça dans quelques instants, d'accord? Par un vote. C'est 2 mois plus tard, en juillet 1536, que Jean Calvin, qui était en passage à Genève, a été convaincu par un certain Guillaume Farel, on en parlera aussi, de rester à Genève et de lui mener la réforme. Calvin a accepté et il est resté un total de 25 ans à Genève. Alors c'est 28, mais il a dû partir pendant 3 ans, on l'a expulsé de Genève, mais il est revenu. Et pendant 25 ans, il est resté à Genève. Il a eu un ministère incroyable. Alors, si je devais associer un verset à la vie de Calvin, un verset, d'accord? Je nous pointerai à 2 Timothée, chapitre 4, et le verset 2, que le début de ce verset qui a 3 paroles, 3 mots. D'accord? Ça, c'est moi qui associe ce verset à lui. 2 Timothée 4 et le verset 2, les 3 paroles. Première parole, les voici. Prêche la parole. Prêche la parole. Et ça, mes amis, on le verra cet après-midi lorsqu'on fait le tour de la réforme dans la cathédrale. Et aussi, j'ai pensé à Flavius, si tu as les feuilles en papier, on pourrait chanter ce chant dans la cathédrale. Ce serait pas mal, si c'est possible. Je sais pas qui vient, mais si quelqu'un vient vous amener les feuilles, on va chanter. Ça va être super dans la cathédrale, d'accord? Mais donc il a prêché pendant 25 ans dans la cathédrale et c'était un prédicateur séquentiel. Il prenait les livres de la Bible et il commençait au verset 1 du chapitre 1 et il continuait exactement comme fait ici à l'EIG. La différence entre lui et moi, c'est que lui, il a prêché ainsi tous les livres de la Bible sauf Apocalypse sur une période de 25 ans. Mais ça, on en parlera plus dans la cathédrale. Alors, on va subdiviser notre étude en 3 parties. Premièrement, on va regarder l'époque de Jean Calvin. Et j'aimerais vous raconter l'histoire de comment l'évangile est venu à Genève. C'est vraiment intéressant. C'est votre ville, il faut que vous connaissiez cette histoire. Deuxièmement, nous allons regarder la vie de Jean Calvin très rapidement et comment il est arrivé à Genève et ce qu'il a fait. Et troisièmement, très brièvement, la doctrine de Jean Calvin. D'accord? Tout ça avant la Sainte-Seine. Donc, priez pour moi. Voyons en premier l'époque de Jean Calvin et comment la réforme est venue à Genève. Alors avant la réforme, alors bien sûr qu'on parle de réforme, c'est des catholiques qui voulaient réformer l'église catholique. C'est ça l'idée de la réforme et le mot protestant, ce sont des catholiques qui ont protesté contre les doctrines fausses de l'église catholique. C'est pour ça qu'on a protestants réformés. Avant la réforme, Genève était une petite ville sur une colline contenant de nombreuses églises catholiques romaines, des chapelles et des couvents. Il faut savoir qu'il y avait beaucoup de commerçants qui venaient à Genève vendre et acheter leurs biens. Ils venaient de la France, du territoire du Piémont, de Venise, bref, aussi du territoire germanique. Et Genève était très centrale. Beaucoup de gens venaient pour vendre leurs biens ici. En même temps, Genève avait une menace grandissante du duc de Savoie. Si vous aimez la ville d'Annecy, vous allez au restaurant, c'est une magnifique ville. Ce qu'il faut savoir, c'est que Annecy était le siège du duc de Savoie, qui était catholique, et c'était l'arche ennemie de Genève. D'accord? Donc c'était vraiment catholique, protestant, et c'était vraiment les deux gouvernements opposés. Genève était gouvernée à l'époque par son évêque et sa bourgeoisie, donc à l'époque elle était catholique, avant la réforme, et il y avait aussi un désir de prendre Genève, qui était une ville indépendante politiquement, mais Genève a toujours résisté. Il faut savoir que l'Église catholique était aussi dans un état déplorable. En 1527, on estime qu'il y avait entre 700 et 900 moines ici à Genève, dans une ville de 10 000 personnes, donc 10% de la ville avait des moines. Beaucoup, ça c'était global pour l'Église catholique, étaient illettrés. Ils disent que le clergé était inexpérimenté, ignorant et corrompu. Il y avait même de nombreux moines qui vivaient en concubinage. Donc on voit un petit peu l'état moral de l'Église catholique. Et bien sûr, beaucoup de ces catholiques ont commencé à s'interroger sur la légitimité de l'Église dans son état déplorable. Et on a vu grandir un désir de revenir à la Bible qui enseigne le salut gratuit en Jésus-Christ par la grâce, qui n'était pas le cas de ce que vraiment l'Église enseignait, on y reviendra dans quelques secondes. En plus, il y avait un mouvement qui s'appelait la Renaissance, qui s'éparpillait dans l'Europe, qui a créé un regain d'intérêt pour la lecture de la littérature antique, un regain d'intérêt pour les langues originales, et aussi cela a rendu un nouvel intérêt pour la lecture de la Bible et les pères de l'Église, les premiers chrétiens qui ont écrit leurs pensées. Et lorsque les gens donc ont commencé à lire la Bible, ils ont rapidement remarqué la différence entre ce que la Bible enseignait et ce que l'Église enseignait. Alors, il y a un incident très célèbre par rapport à la doctrine de l'Église catholique. Peut-être on peut passer à la prochaine. Voilà. Il y avait une pratique dans l'Église catholique qui était la vente des indulgences. Et les indulgences étaient une pratique de l'Église catholique. Oui, alors voici une indulgence, c'est une copie d'une indulgence des années 1500. Il y avait un très célèbre moine catholique allemand qui s'appelait Tetzel. Et lui, il allait et il vendait ses bouts de papier. Et en vendant ses bouts de papier, on te garantissait une réduction de temps dans le purgatoire ou carrément directement passer au ciel si tu payais beaucoup. D'accord ? Et il disait à l'autorité des saints et dans la compassion envers vous, je vous absous de tout péché et de mauvaise action, et je vous remets la punition pour les jours à venir. Donc c'était carrément un bout de papier qu'on vendait, et là on voit, dans le musée de la Réforme, en haut à gauche, une indulgence qui date de 1835, si je ne me trompe pas, et en bas à droite, c'est une image de Tetzel qui lui vendait ses indulgences. Alors on peut imaginer maintenant qu'il y a une forte réaction dans l'Église catholique, et cette première réaction est venue en 1517 par un certain Martin Luther. Alors pas Martin Luther King, d'accord, on vient de célébrer, ça c'est un Martin Luther, autre chose. Martin Luther était un docteur, un moine, en théologie à l'université de Wittenberg en Allemagne, et un jour il a écrit 95 thèses pour se plaindre de la vente d'indulgences. Et en fait sa thèse, voici le titre original, 95 thèses sur la puissance et l'efficacité des indulgences, donc pour montrer qu'elles n'avaient aucune efficacité. Et alors ces thèses, voilà, j'ai une copie aussi de ces 95 thèses. Alors c'est 95 points tout simplement pour décrier l'horreur de ce qu'il faisait. Il a écrit ces thèses et il les a clouées sur l'église, la porte de l'église, on voit ici dans l'image, la porte de l'église de Wittenberg. Et il défendait, bien sûr, en ayant tombé son regard sur Romains 1:17 qui dit que le juste vivra par la foi. Il s'est dit, mais si on vit par la foi, comment est-ce qu'on peut vivre par les œuvres en achetant des indulgences? Ce n'est pas logique. Et donc, il a, lui, commencé à prêcher le salut par la grâce de Dieu et pas par les œuvres des hommes. Et bien sûr, ceci était une attaque directe contre l'autorité du pape. Alors, puisque maintenant Genève était une ville de foire et de commerce, beaucoup de gens venaient d'un peu partout, eh bien, des personnes venaient à Genève de toute l'Europe, et ce sont justement ces marchands qui étaient les premiers, et ça c'est intéressant, des gens comme vous et comme moi, des gens normaux, si je peux dire, qui ont amené la réforme à Genève. C'était des commerçants et des marchands qui venaient à Genève de cette Allemagne, avec ses nouvelles idées de ce petit moine appelé Martin Luther, et ils sont venus avec des traités, avec des copies des 95 thèses, avec des copies, parce qu'il y avait aussi la presse de Gutenberg qui maintenant pouvait imprimer des choses rapidement. Ils venaient avec toutes sortes de documents, des portions de la Bible, et ils venaient, on le voit ici, sac à dos, parce qu'il n'y avait pas encore Internet, d'accord, ça a été beaucoup plus simple. Mais ils venaient et ils allaient frapper porte à porte et offrir des traités et offrir des études bibliques, porte à porte. C'était les premiers évangélistes à Genève. Et moi, je trouve ça vraiment passionnant, quoi. Que l'évangile, mes amis, est propagé par des gens normaux, des vous et des moi. Alors, bien sûr, il y a des gens comme Martin Luther et Calvin qui ont un gros rôle, je dirais, de tonnerre. Mais c'est la population qui, avec son zèle, a propagé l'évangile dans cette ville. Alors, il y a eu un effet domino, ce qui est remarquable et difficile pour nous de comprendre, c'est que l'une après l'autre, les villes entières en Suisse ont capitulé à la foi réformée. L'évangile y allait, on comparait, ils organisaient même ce qu'on appelle des disputes, des débats, pour comparer la doctrine catholique et évangélique, et tac, la ville capitulait à l'évangile et votait carrément pour adopter l'évangile. Et là, il y avait par exemple en 1522... le prêtre catholique Zwingli à Zurich s'est converti à Christ et a convaincu Zurich à adopter la réforme. Zurich a capitulé et est devenue protestante. Toute la ville. Ensuite, Berne a adopté la réforme en 1528. Bâle a accepté la réforme en 1529. Et bien sûr, maintenant, Genève était tentée, avec toute cette Bible qui venait, aussi à adopter la réforme. Alors, c'était un petit peu plus tard pour Genève. Entre-temps, 1529, il y a le pape Clément VII qui écrit au duc de Savoie à Annecy et lui dit ceci, je cite, « Genève a été luthérianisée trop rapidement, cela doit stopper. » Donc ils ont peur, ils voient que Genève est en train d'adopter gentiment la réforme. Et alors le syndic catholique de Genève, donc c'est le gouvernement, a alors interdit toute prédication à Genève par des prédicateurs étrangers protestants. C'était les étrangers en plus, ça m'encourage, d'accord. C'est les étrangers, et vous aussi, parce que la plupart de nous on est étrangers, j'ai l'impression. Ce sont les étrangers qui amenaient l'évangile à cette ville, d'accord. Et il dit, attention, il faut arrêter tout ça. En plus des conversions spectaculaires, en 1532, Claude Bigottier, le directeur des écoles genevoises à l'époque, se convertit, je cite dans les livres historiques, au luthérianisme et a été ordonné d'arrêter la lecture des évangiles en classe. Voyez-vous, l'évangile était maintenant apporté dans les classes et les élèves commençaient à entendre l'évangile. Le 9 juin de la même année, l'affaire Placard a eu lieu. Ce sont des affiches qui étaient clouées, dont une sur la porte de la cathédrale Saint-Pierre, une affiche qui critiquait ouvertement les ventes d'indulgences pour le soi-disant pardon des péchés par l'Église catholique. Alors, il y a une tension grandissante à Genève. En octobre 1532, une nouvelle personne arrive sur la scène, une personne qui a une immense influence ici, c'est un certain Guillaume Farel. Vous avez entendu parler de lui ? Un prédicateur, un évangéliste français puissant, de Gap d'origine. Alors, ce qui est incroyable avec Farel, c'est un évangéliste. Apparemment, il n'avait pas beaucoup de tact, on nous dit, d'accord. Mais alors, il prêchait, quoi, dans ta figure, d'accord. Et ce qui est intéressant, c'est que Dieu a utilisé cet homme pour gagner Aigle, Neuchâtel, Orbe, Grandson et Payerne à la réforme. Mais lui, il avait un objectif, il voulait voir Genève adopter la réforme. Et pendant 4 ans, il y a travaillé, mais il se faisait systématiquement expulser de la ville. Alors un jour, il a une incroyable idée. Écoutez bien, je trouve cette histoire fascinante. Il avait un ami qui s'appelait Antoine Fremont. C'était aussi un Français de la région de Dauphiné. Il était pasteur à Yvenand, Suisse. Et alors il a pensé que peut-être c'était Fremont qui aurait la clé pour gagner Genève à la réforme. Alors voici le défi que Farel lui a lancé. Prends l'approche d'un maître d'école. Donc, Fremont est venu à Genève et il a offert des cours de lecture et d'écriture en français à tous, hommes et femmes et enfants, tenez-vous bien, et leur a promis la réussite ou le remboursement, même s'ils n'avaient jamais été à l'école auparavant. Donc, il promet un cours de français avec réussite en main. Alors, il a affiché ses cours, il a fait la publicité en mettant des affiches à Genève. Il faudrait qu'on y pense aussi, d'accord ? Il faut faire des affiches, d'accord ? Il les a placardées partout à Genève avec ces mots. Et je cite ce qui était marqué sur l'affiche. Un homme est arrivé à Genève qui, en l'espace d'un mois, va enseigner à qui que ce soit, grand ou petit, homme ou femme, à lire et à écrire en français. Celui qui échouera n'a besoin de rien payer. Alors, il peut imaginer que c'était plein craqué. Et après chaque cours, vous savez ce qu'il faisait ? Il sortait la Bible et il lisait et commentait une portion de la Bible. La classe est devenue très grande. Les élèves étaient particulièrement fascinés de sa manière systématique et méthodique d'enseigner la Bible. Et beaucoup de gens sont venus à Christ pendant ces cours et ont adopté la foi réformée. Et je trouve de nouveau intéressant la créativité dans l'évangélisation. La créativité. Trouver des idées pour trouver des ponts et atteindre les gens avec l'évangile. Alors bientôt, la classe était trop grande pour la pièce dans laquelle ils se réunissaient. Le 1er janvier 1533, date très importante à Genève, parce qu'elle a été, je dirais, capté dans un tableau qu'on va voir dans quelques instants. Les étudiants ont pris Fremont et l'ont dit, écoute, arrête tes cours de français, nous on va entendre la Bible, et ils sont allés au Mollard, la place Mollard. Et ils ont déblayé une table de poisson, ils ont dit, Fremont, monte sur la table et prêche. Alors, les historiens nous disent que, avant de monter sur la table, il s'est mis à genoux, il a pleuré et prié, ensuite il est monté sur la table de poisson, et il a prêché Matthieu 7, 15, « Méfiez-vous des faux prophètes qui viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans sont des loups ravisseurs. » Alors, vous avez compris la nature du message, je pense. Avec ce texte, dénoncer ouvertement le système religieux catholique. Et il est dit que la plupart des gens ont écouté à genoux. Alors, bien sûr, tout de suite, ils ont essayé de l'arrêter et des amis l'ont protégé en le prenant parce qu'il allait être arrêté, mis en prison. C'est intéressant que Fremont a fait tout ça en 3 mois. 3 mois, il a un impact. Et c'est ce tableau que vous avez déjà peut-être vu, regardez le Mollard. Si vous allez au Mollard aujourd'hui, vous avez encore la tour derrière à gauche, elle y est encore, hein, avec une horloge là maintenant. Mais c'est là, alors quand vous allez au Mollard au marché, pensez que c'est là où la réforme a été prêchée. Et Fremont a été enlevé. Alors, la première célébration de la Sainte Cène à Genève par les réformateurs était le 10 avril 1533. Alors ça, c'était un défi direct contre l'Église catholique, parce que pour eux, il n'y avait que la Sainte Cène catholique qui comptait. Et donc, ça a plongé Genève presque au bord d'une guerre civile. Berne était protestant, Fribourg était catholique. Les Genevois protestants font appel à Berne. Les catholiques ont demandé de l'aide à Fribourg. Et c'est Berne, quelque part, qui a gagné. Et c'est intéressant, Berne a exigé que le conseil de la ville de Genève autorise les pasteurs protestants de prêcher librement à Genève. C'est quand même génial. Quand le gouvernement ordonne que les protestants aient le droit de prêcher, que le Seigneur nous redonne ce jour un jour. Là, c'est trop génial, quoi. Alors Berne gagne. C'est pour ça que quand on sera au mur de la Réforme cet après-midi, vous allez voir l'écusson de Berne devant le mur. Parce que Berne a eu une grande influence à aider Genève à devenir protestante. Le premier culte protestant à Genève a eu lieu le 22 février 1534. Et ce culte, vous voyez, c'est un des bas-reliefs sur le mur de la Réforme. On le regardera cet après-midi. Donc ça, c'était une date très importante. Toutes sortes de conversions, maintenant, se font de plus en plus à Genève. Le jour de la Pentecôte, 1534, Farel prêche à la cathédrale Saint-Pierre. Soudain, pendant le culte, Louis Bernard, un prêtre qui servait à la cathédrale, s'avança vers la chaire, ôta ses vêtements de prêtre et annonçait que dès lors, il renonçait à sa foi catholique pour se rallier à la cause évangélique. Ce sont des conversions radicales publiques. Mais tout le monde à Genève n'était pas content. Et là, une petite anecdote assez intéressante. Le 6 mars 1535, il y a une serveuse dans un restaurant, ici à Genève, ou plutôt une auberge, qui s'appelait Antonia Vax. Et Antonia Vax était catholique, et elle s'est dite, alors bien sûr, elle était influencée par les prêtres, les historiens nous disent, d'assassiner Farel Viret Froment. Et comment est-ce qu'elle a fait? En rajoutant du poison dans leur soupe aux épinards. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Farel a regardé sa soupe, il a dit que lui, il aurait préféré une soupe moins épaisse, et donc il a demandé une autre soupe. C'était raté pour Farel. Froment, lui, était sur le point de prendre sa première cuillerée de soupe épaisse lorsque quelqu'un est arrivé en courant dans l'auberge pour lui dire que sa femme et ses enfants venaient d'arriver. Il s'excusa, il partit sans manger de soupe. Lui, il était OK. Mais pas Viret. Seul Viret a mangé une partie de la soupe. Il est devenu très malade. Il n'en est pas décédé, mais il a été malade pour le reste de sa vie par rapport à cette soupe. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Apparemment, Antonia Vax avait mis trop de poison dans la soupe. Et il a vomi la soupe avant de toute la manger. Et donc, ça lui a épargné la vie, mais il a quand même été malade pour sa vie. Alors, Antonia Vax a essayé de fuir Genève en bateau, mais elle a été rattrapée. Et dans sa confession, elle a expliqué que c'était les prêtres à Genève qui ont influencé pour qu'elle fasse ce geste. Les prêtres ont tous été arrêtés et Antonia, elle, a été condamnée à mort. Elle a été décapitée à Champelle le 14 juillet 1535. À l'époque, on ne rigolait pas, d'accord? Aujourd'hui, c'est un petit peu différent. Pas qu'on rigole, mais ça n'existe plus. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Alors bien sûr, en plus de tout ça, il y avait des persécutions maintenant féroces contre les protestants en France. Le roi François Ier de France a ordonné ces persécutions parce qu'il voulait anéantir les protestants en France. Ils n'aimaient pas le fait que les protestants révélaient toujours l'erreur des catholiques. Et ils ont été stigmatisés, les mains et les nez amputés, leurs têtes marquées de fer rouge, les protestants. Hein. Ils ont été tués et certains ont été brûlés sur le bûcher. Le 10 août 1535, la messe catholique a été officiellement abolie à Genève par le conseil municipal de 200. Et c'est ce jour-là, en fait, que Genève a arrêté ou cessé d'être catholique. Et cet après-midi, on regardera une plaque dans la cathédrale. Je trouve cette plaque la chose la plus importante dans la cathédrale. Elle est en latin, personne ne la comprend, il faut la traduction, je l'ai, d'accord? Donc on va la regarder, intéressant, vraiment intéressant. Le triste départ des sœurs de Sainte-Claire, il y avait un couvent. Vous connaissez le palais de justice dans la vieille ville? À l'époque, c'était un couvent. Et qui existait depuis 1474 au bourg de Fours. Et Farel avait essayé d'apporter les 24 religieuses dans ce couvent à l'évangile, en leur annonçant l'évangile. Il n'y en a qu'une, apparemment, qui s'est convertie, Blasine de Voirembert. Elle s'est convertie. Et finalement, les catholiques ont été chassés de la ville. Et ces 23 sur 24 sœurs ont quitté Genève. À pieds nus, on leur a donné les chaussures, mais elles n'avaient jamais porté de chaussures de leur vie. Donc elles les ont mis, elles les portaient, elles ne savaient pas qu'il fallait les mettre. C'est triste, hein, ça fait rigoler, mais c'est triste. Elles avaient tellement été cloîtrées, on nous dit qu'elles penchaient que les vaches qu'ils avaient vus étaient en fait des ours et que les moutons étaient des loups ravisseurs. Ils ont marché à pied de la vieille ville jusqu'à Saint-Julien-en-Genevois, qui est encore catholique et sous le contrôle du duc de Savoie. Et l'hôpital a été le couvent a été ensuite transformé en hôpital à l'époque de Calvin, et aujourd'hui c'est le palais de justice. En 1535, le 18, un grand culte a lieu à la cathédrale où les protestants remercient Dieu d'avoir délivré la ville. Mais les ennemis menacent. Finalement, le 13 janvier 1536, le duc de Savoie, qui menace Genève, est arrêté par les Bernois qui envoient 7000 troupes à Genève pour aider Genève. Le duc de Savoie fait retraite. Le roi de France profite de cette défaite locale pour envahir la Savoie et conquérir la Savoie. Et vous verrez de nouveau l'écusson ce soir, cet après-midi, au mur de la Réforme. Il y a un vote historique, et ça c'est vraiment la date maintenant clé. C'est parfait. Le dimanche 21 mai 1536, il y a une date que vous voulez rappeler, c'est celle-ci. Je répète, le 21 mai 1536, tous les électeurs de la ville de Genève sont réunis dans le cloître de la cathédrale. Si vous êtes dans la cathédrale Saint-Pierre et vous sortez, vous descendez les marches, juste à droite, il y a un bâtiment, il y a le musée de la Réforme. Sur le coin de ce bâtiment, il y a une plaque. Et cette plaque, on la verra cet après-midi, commémore cet instant, c'est là où ça a eu lieu. Tous les électeurs de la ville sont réunis dans le cloître de la cathédrale Saint-Pierre et votent officiellement, à main levée, la Réforme. Et dans le livre du conseil de la ville, il est dit ceci, notez, nous voulons tous à l'unanimité avec l'aide de Dieu vivre cette sainte foi évangélique. C'est la ville qui dit ça. Dans le registre du conseil municipal. Et donc pour la plupart des historiens, ça c'est la date clé. C'est à ce moment-là que Genève vraiment devient officiellement protestante réformée. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, on n'a pas encore parlé de Jean Calvin. C'est intéressant, non? Parce que ce n'est pas Jean Calvin qui a amené l'évangile ici. C'est en fait toutes ces autres personnes qu'on a vues. Et ça, je voulais que vous le sachiez. Parce que je pense que l'évangélisation du monde, jusqu'au retour de Jésus, doit être faite par des gens comme vous et moi. Parlons un petit peu de Jean Calvin. Quelle est la vie de Jean Calvin? Je pense que Jean Calvin n'a jamais imaginé l'étendue et l'influence que son ministère à Genève aurait dans le monde entier. Et de nouveau, je pense, si je devais résumer la clé de la vie de Jean Calvin et l'effet qu'il a eu dans le monde entier, de nouveau, je reviendrai à ce que j'ai dit au début de mon message, c'est la prédication. La prédication. Calvin était avant tout un prédicateur infatigable. Et je vous en dirai plus. On va s'asseoir en dessous de sa chaire cet après-midi dans la cathédrale et je vous expliquerai comment il prêchait. C'est incroyable. Incroyable. Je me sens tout petit comparé à Jean Calvin qui prêchait, au fait, directement du grec et du hébreu. Moi, c'est pas tout à fait ça, d'accord? Il est né le 10 juillet 1509 à Noyon, au nord-ouest de Paris. Et aujourd'hui, à Noyon, il y a encore la cathédrale où le père de Calvin était secrétaire d'évêché. Donc, bien sûr, il est né catholique. Il voulait que son fils entre dans les ordres catholiques. En 1520, Jean Calvin devint aumônier de la cathédrale, donc rémunéré, un poste rémunéré. Ce qui lui a permis de voir du près et auprès les œuvres contestables de l'Église catholique, certainement. En 1523, Calvin est envoyé à Paris pour étudier la théologie. Tenez-vous bien. Il va à l'université, il a 14 ans. En 1524, il entre au collège de Montaigu. Il obtient son diplôme à 19 ans, une maîtrise en art. En 1528, il va à Orléans pour étudier le droit, puis à Bourges, où il reçoit son doctorat en droit en 1532. Ce qui explique peut-être aussi son approche très méthodique. Il avait étudié le droit, et le droit c'est très logique et très méthodique. Ce fut pendant, alors ça, on n'a pas toute l'information, mais c'est ce que la plupart des historiens pensent, ce fut pendant son séjour à Bourges, peut-être à Orléans, mais probablement au Bourges, que Calvin tomba sur les écrits de Luther, qui s'étaient répandus à travers l'Europe, et c'est à ce moment-là, probablement, qu'il s'est converti à Jésus-Christ, et donc à la foi protestante, c'est comme ça qu'il le disait. Voici comment Calvin décrit sa propre conversion, d'accord ? Je cite. « Dieu, par une conversion soudaine, a soumis et éclairé mon esprit jusqu'à le rendre accessible, ce qui fut encore plus difficile que ce soit à quoi je m'étais attendu dans ma jeunesse. Ayant reçu un certain goût et une certaine connaissance de la vraie piété, je fus immédiatement enflammé dans un désir si intense de progresser dans ces choses que, quoique je n'ai pas abandonné complètement mes autres études, je les ai poursuivies avec moins d'ardeur. » Ce qu'il est en train de dire, c'est que le moment où il s'est converti, il a eu un désir d'apprendre et de connaître la parole de Dieu, au point où ça a pris le dessus sur ses autres études. Calvin avait compris la signification du salut par la grâce au moyen de la foi seule. Et donc, il a commencé à écrire ce qu'il avait découvert. Et il le prêchait aux gens, il le disait aux gens, il faisait des études avec les gens. Mais très vite, on l'a regardé avec suspicion. Et donc, il a commencé à se déplacer. Il a dû fuir Paris en 1533. Nicolas Cop, qui était le recteur de l'Université de Paris, qui est maintenant nommée la Sorbonne, hein, donc c'était là, c'était une université catholique à l'époque, il prononça le discours inaugural que de nombreux étudiants crurent écrit par Calvin. Donc, c'est Cop qui a donné le speech, mais tout le monde a reconnu, voilà, c'est, là, il y a Calvin derrière, parce qu'ils étaient très, très amis, d'accord ? Et donc, Calvin était maintenant un homme traqué, considéré un hors-la-loi, un traître. Il a dû fuir la France pour sauver sa vie. Comment ? Ben, on voit ici, dans la prochaine image, il a dû carrément un jour se laisser descendre de sa fenêtre par les draps de son lit pour échapper à Paris. Après plusieurs mois de voyage en France, Calvin va à Bâle, en Suisse, ville libre, en 1534, et commence à écrire son livre le plus connu, « L'institution de la religion chrétienne ». Alors, là, je vais vous montrer une image, pas encore, parce que vous devez, bon, je vais vous dire déjà ça, d'accord. L'institution de la religion chrétienne, pourquoi est-ce qu'il l'a écrit? Alors, ce qu'il fait, c'est qu'il décrit de manière très méthodique la doctrine protestante d'une manière ordonnée et logique. Il dit ceci, et je cite Calvin, « Je me suis mis à la tâche spécialement pour nos propres Français, car je savais que beaucoup avaient faim et soif de Christ, et aussi que peu seulement avaient une réelle connaissance de lui. » Donc, il écrit ça pour aider les chrétiens en France de comprendre leur foi. Mais Calvin dédicaça l'institution chrétienne au roi François Ier de France, qui lui persécutait cruellement les protestants. Et dans son introduction, Calvin essaye de le convaincre de son erreur et lui dit « Mais arrête, arrête ou arrêtez de persécuter les protestants, votre combat est le mauvais combat. » Regardez cette image, c'est une image, c'est une lithographie, voilà ce qu'on faisait aux protestants. Alors ça c'est plus tard, c'est pas une image à cette époque-là, mais c'est simplement des soldats qui sont prêts à tuer des bébés pour que tu changes de religion. On peut passer à la prochaine. C'est horrible. Et donc, il faut comprendre les persécutions terribles qui sont en train d'avoir lieu en France pour comprendre le zèle de Calvin d'écrire au roi et de lui dédier ce livre. Là, on voit ici les chrétiens qui sont dans les Cévennes. Les Cévennes, c'était un endroit où les huguenots de la France entière allaient se cacher parce qu'il y avait toutes ces montagnes, c'était très difficile de les trouver. Et il devait y avoir des cultes en secret, ce qu'on appelle ça la période du désert, les cultes du désert. Période terrible pour les protestants. Et donc c'est pendant que Calvin est à Bâle en train d'écrire les institutions chrétiennes que Genève vote la réforme, le 21 mai 1536, en même temps. Alors en juillet, deux mois plus tard, 1536, lors d'un voyage de retour de Strasbourg, Calvin s'arrête à Genève, qui venait d'adopter la réforme. Et il est à l'auberge de la Tête Noire, à Genève. Elle n'existe plus, je ne sais même pas où elle est. Vous vous rappelez de Guillaume Farel, hein, le français, qui n'avait pas beaucoup de tact, mais un grand prédicateur. Mais il était à Genève. Lui, ça faisait 4 ans qu'il voulait gagner cette ville à Christ, et il l'a gagnée à Christ. Elle est devenue réformée, mais ensuite, tout d'un coup, il a eu peur, il s'est dit, oh, bon, peut-être je l'ai gagné à Christ, mais maintenant, pour la suite, je suis pas le bon gaillard, quoi. Il faudrait quelqu'un d'autre. Et il avait lu les institutions chrétiennes, et il s'est dit, Calvin is the man. D'accord? C'est ce qu'il s'est dit. Alors, Varel va voir Calvin à l'auberge, et il lui dit ceci. Là, on le voit bien. Je vous préviens, au nom de Dieu Tout-Puissant, que si, au prétexte de poursuivre vos études, vous refusez de collaborer avec nous à cette œuvre du Seigneur, le Seigneur vous maudira de vous occuper de vous-même plutôt que de Christ. Farel lui dit, si tu ne viens pas à Genève, que Dieu te maudisse. La technique a très bien marché, d'accord ? Voici ce que Calvin écrit après que Farel lui ait dit cela. Je cite Farel, qui brûlait d'un zèle extraordinaire pour faire avancer l'évangile, comprit immédiatement que mon cœur était attaqué, me vouant à mes études personnelles pour lesquelles je désirais rester libre d'autres occupations et trouvant qu'il n'y gagnait rien par les supplications, il procéda en prononçant une imprécation que Dieu maudirait ma retraite et la tranquillité des études que je poursuivais si je devais me retirer et refuser de prêter assistance quand la nécessité en était si urgente. Sa malédiction m'a tellement frappé de terreur que j'ai renoncé au voyage que j'allais entreprendre. Et il est resté 25 ans. Enfin, 28 total, mais il a été expulsé pendant 3 ans. Alors, est-ce qu'il y a une leçon ? Moi, je me dis qu'il y a peut-être une leçon. Parfois, il faut utiliser des méthodes radicales pour avoir des résultats radicaux. Alors, quel est le but de Calvin ? Alors, il accepte, il vient ici, il devient lecteur de la Bible, et puis ensuite il deviendra pasteur plus tard. Ce qu'il voulait, c'était l'enseignement de la Bible. Il a commencé à enseigner la Bible, on en parlera cet après-midi, de manière claire, nette, méthodique, systématique. Il a préparé une confession de foi pour Genève, pour que les gens comprennent ce qu'ils croient. Il a planifié un programme d'études pour tous. C'est à Genève, au fait. Vous savez que l'éducation est devenue obligatoire pour les jeunes. C'est ici que ça a commencé. Les jésuites, ensuite, ont volé l'idée. Mais c'est ici qu'avec la réforme, l'éducation est devenue quelque chose d'obligatoire. Et bien sûr, nouveauté, grande discipline dans l'Église. Ce qui n'existait pas trop dans l'Église catholique à l'époque. Alors bien sûr, toutes ces contraintes immédiates ont fait que certains n'ont pas trop aimé. Ils pensaient qu'il était un petit peu trop radical. Et donc, il a été expulsé en 1538. Mais le Seigneur a béni quelque part cette expulsion. Il est allé à Strasbourg et là, il a rencontré son épouse, Idelette de Bure-Stordeur, qui elle était veuve. Et Calvin avait 31 ans lorsqu'ils se sont mariés. Et Calvin dira que ses années à Strasbourg étaient parmi les plus heureuses de sa vie. En 1541, 3 ans après avoir été expulsé par Genève, le conseil municipal a reconnu son erreur et a demandé à Calvin de revenir. Calvin était très tourmenté, il avait peur de revenir, il s'est dit que si je reviens à Genève, ça va être la galère pendant toutes ces années. C'est exactement ce qui s'est passé. Mais il pensait aussi que c'était important de continuer le travail qu'il a commencé. Alors, on ne sait pas où c'est arrivé, mais on nous dit que, c'est lui qui l'a marqué, lorsqu'il est revenu à Genève, 3 ans plus tard, il est monté dans la chaire, et il a continué la prédication au prochain verset du texte qu'il avait laissé 3 ans avant. Vraiment un prédicateur systématique. Et donc, il restait ici jusqu'en 1564, le 27 mai, le jour de sa mort. La même année, il a publié en français l'Institution de la religion chrétienne, la première édition était en latin. En fait, on peut voir dans le musée de la Réforme l'édition originale, une des éditions originales, vraiment intéressant. Et en 1542, il rédigea le catéchisme de l'Église à Genève. Et c'est à ce moment-là qu'il a commencé, Flavius, tu seras intéressé de le savoir, son travail sur le psautier, d'accord, avec les 150 psaumes faits à la musique, en musique. En 1549, sa femme est décédée. Elle mourut de la tuberculose après 9 ans de mariage. Calvin ne se remariera jamais, mais à la place, il s'est donné complètement et totalement à son travail. Petite anecdote, on va en parler, mais elle est importante parce que Calvin est souvent accusé d'avoir tué des gens. En 1553, il y a eu l'exécution, le procès d'exécution de Michel Servet. Peut-être que vous connaissez, il y a la rue Servet, il y a le monument Servet, tout près de l'hôpital cantonal à Genève. Il a été brûlé sur le bûcher à cause de son hérésie. Il était contre la Trinité. Ce qu'il faut savoir, ça c'est pour défendre Calvin. Premièrement, ce n'est pas Calvin qui a pris la décision, c'est la ville. Calvin n'était même pas membre ou citoyen officiel de la ville à l'époque. Deuxièmement, l'Église catholique avait déjà brûlé par effigie Servet à Valence. Ce qu'il faut savoir à l'époque, et c'est ça qu'on a de la peine, nous, c'est que beaucoup de gens mouraient pour leur foi. Ce que tu croyais à l'époque était important. Ce que tu croyais était une question de vie ou de mort. Donc Servet aurait été tué par les catholiques s'il avait été pris par les catholiques. Calvin lui a dit « ne viens pas à Genève ». Calvin avait essayé à Paris d'avoir un rendez-vous avec lui. Il n'est pas venu à ce rendez-vous pour lui dire « ne viens pas à Genève, ça va mal tourner ». Il est venu. Certains pensent qu'il voulait que Calvin soit éjecté, que lui prenne la place de Calvin. Ça, c'est ce que certains pensent. Bref, il a été pris et il a été exécuté pour son hérésie. Mais ce n'est pas Calvin qui a fait ça, bien que l'histoire veut blâmer Calvin pour cela. Moi, je pense que c'est faux. Calvin est devenu très malade. Il a une très mauvaise santé. Bien sûr, sa charge de travail, si vous lisez une biographie de lui, c'est impressionnant. Il dormait 4-5 heures par nuit maximum. Un emploi du temps, mais phénoménal, quoi. Incroyable. Il mangeait pas très bien. Il avait des sévères maux de tête, fièvre, calcul biliaire, asthme chronique, tuberculose. Il avait un peu de tout, en fait. Pourtant, il étudiait, il prêchait, il écrivait considérablement. Commentaires, correspondances, traités théologiques. Des foules de visiteurs qui venaient à sa porte. En 1564, au début de l'année, Calvin a donné son dernier cours à l'auditoire. Il a prêché son dernier sermon à la cathédrale Saint-Pierre. Et le voici, il a dû être porté sur une chaise. Ça, c'est un prédicateur jusqu'au bout, mes amis. Moi, il m'inspire. Il a dû être porté sur une chaise. Certains pensent que la chaise qu'on voit en dessous de la chaire de Calvin dans la cathédrale, on la verra cet après-midi, était une chaise qui était mise dans la chaire de laquelle il pouvait prêcher. Peut-être. Bref. Il a finalement donné ses derniers adieux. Et le 27 mai 1564, Calvin mourut avec Farel à ses côtés. Ouais, incroyable. Alors les effets de la vie de cet homme, on les verra cet après-midi, pendant le tour. Il y en a beaucoup, beaucoup d'effets. Des effets incroyables et des effets qui sont liés directement à ce que nous vivons à Genève aujourd'hui. J'aimerais, sur le troisième point, ce matin, vous parler un petit peu brièvement de la doctrine de Jean Calvin. La doctrine de Jean Calvin. Alors, comment résumer la doctrine de Jean Calvin en quelques minutes, ce qu'on va faire aujourd'hui? Alors, c'est assez facile parce que les historiens l'ont déjà fait pour moi. En fait, c'est même pas les historiens. C'est un concile qu'il a fait, j'explique. On est en 1618. Lui, il est mort en 1564, donc on est 54 ans après la mort de Jean Calvin. Il y a un professeur à l'université de Leiden, en Allemagne, qui s'appelle Jakub Arminius. Vous avez déjà entendu parler de lui ? Arminius. Jakub Arminius s'était écarté de ce qui était perçu comme la foi réformée, la doctrine enseignée par Jean Calvin. Et donc la doctrine d'Arminius est aujourd'hui appelée l'arminianisme. Si vous entendez ce mot, l'arminianisme vient d'Arminius, Jacob Arminius. Alors, puisqu'il déviait de ce qui était perçu être la doctrine de Calvin, il y a une conférence de pasteurs qui a été organisée, qu'on appelle le synode de Dordrecht. Excusez-moi, les Allemands, Dordrecht, je ne sais pas trop comment dire. Plus simple, Dort, ça marche aussi, d'accord ? Le synode de Dort. Et à ce synode, c'est un rassemblement, la doctrine réformée a été officialisée. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Jacob Arminius avait, lui, décliné sa doctrine en 5 points. D'accord ? Alors, les calvinistes ont décliné la doctrine calviniste en 5 points. Donc, ce que j'aimerais vous montrer, c'est les 5 points du calvinisme. Si vous avez entendu parler de ça déjà, les 5 points du calvinisme. Alors, on va pas les regarder théologiquement, je vais pas vous donner les pour et les contre, je vais simplement vous donner un verset pour chacun, comme ça vous comprenez globalement et très rapidement ce qu'est la doctrine calviniste ou réformée calviniste, si vous voulez, d'accord? Alors, voici ce qu'on appelle les 5 points du calvinisme, aussi ce qu'on appelle les doctrines de la grâce, d'accord? Numéro un, la corruption totale. La corruption totale. Ce point dit tout simplement, elle parle de la dépravation totale ou de l'incapacité totale, qui veut dire que l'homme est esclave du péché et de Satan et ne peut pas exercer sa propre volonté pour croire en Jésus-Christ et être sauvé sans l'aide de Dieu. Ça veut dire tout simplement dire, on est tellement corrompu, Éphésiens 2 nous dit qu'on est mort au péché, que c'est même Dieu qui doit nous donner l'aide pour pouvoir croire, la foi pour croire. Romains 5, 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Tous les hommes sont pécheurs, et nous sommes tous morts, donc nous devons être redonnés la vie par Dieu. Donc ça c'est le premier point. Corruption totale. Deuxième point du calvinisme. L'élection inconditionnelle. L'élection inconditionnelle. La préscience de Dieu à l'égard des sauvés est basée uniquement sur la volonté de Dieu et non pas sur la décision de l'homme. Alors, le verset utilisé, c'est Éphésiens 1, 4 et 5. Enfin, il y a beaucoup de versets, mais voilà le verset. Je vous les lis. Éphésiens 1, 4. Écoutez bien. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui, il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés en le bien-aimé. Donc ici, ça veut simplement dire que un sauvé est sauvé parce que Dieu l'a élu ou élit. Il a élu d'être sauvé, et Éphésiens nous dit, avant même la fondation du monde. Donc ce n'est pas lié à la décision de l'homme, c'est lié à la décision de Dieu. Alors bien sûr, beaucoup de gens disent, ça ne paraît pas très juste tout ça. Et de là est sortie cette doctrine qu'on appelle la double prédestination. Et certains disent, ça veut dire que si Dieu a élu ceux qui doivent être sauvés, ça veut dire que Dieu a aussi élu ceux qui doivent être condamnés. Alors, c'est logique, mais la Bible, en fait, ne le dit pas tel quel. Bref, le calvinisme est connu pour, justement, la prédestination, ça c'est le mot-clé qui est souvent associé à Calvin, la forte compréhension de l'élection de Dieu. 3. Donc je décline pas trop, je dis simplement quelle est la doctrine, d'accord ? 3. Troisième point du calvinisme, l'expiation limitée. L'expiation limitée, ce qu'on appelle aussi la rédemption particulière. Jésus est mort afin de sauver ceux qui l'ont été donnés par le Père depuis l'éternité passée. Seuls les élus seront sauvés et ceux pour qui il n'est pas mort seront perdus. Alors, Éphésiens 5, 25 dit ceci par exemple, Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Donc eux, ils disent que, enfin, cette doctrine dit que Christ est mort que pour les élus, parce que c'est eux qui sont sauvés. Ceux qui ne sont pas sauvés n'ont pas reçu le bénéfice du sang de Christ, donc Christ n'est pas mort pour eux. Ça, c'est la doctrine de l'expiation limitée. Quatre. La grâce irrésistible ou la grâce efficace. Dieu possède une grâce irrésistible qui ne peut être obstruée. Les hommes sont morts et doivent être rendus vivants par l'Esprit. Ça veut dire que quand Dieu, c'est comme un aimant en fait, la grâce est un aimant, une fois que l'aimant est sur toi, tu ne peux plus résister, tu vas te convertir. Jean 6, 44, le dit comme ceci. Nul ne peut venir à moi, dit Jésus, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai le dernier jour. Donc si le Père t'attire, tu viendras à Christ. Et cinq, la persévérance des saints, ou ce qu'on appelle la sécurité éternelle. Puisque le salut est totalement une œuvre de Dieu, le chrétien persévérera, puisque Dieu veillera à ce que l'homme finisse ce qu'il a commencé en lui. Philippiens 1, 6 dit, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Donc un chrétien, il persévère, il lutte quelque part, jusqu'à la fin, parce que Dieu termine l'œuvre qu'il a commencée en lui. Alors voilà, je viens de résumer en 5 points très rapides. Je n'ai pas commenté, je n'ai pas dit si je suis d'accord avec tout ou pas, ou une partie. Ça sera peut-être une autre fois, avoir le détail. Mais ça, c'est ce qu'on appelle les 5 points du calvinisme. Alors, si vous parlez l'anglais, vous avez de la chance. Parce que ces 5 points en anglais sont encore plus faciles à retenir. Parce que ces 5 points vous donnent comment on appelle ça ? En quoi ? Un anagramme. Un anagramme. Un crostiche. Un anagramme crostiche. Un acrostiche anagramme, d'accord ? Bref, regardez. On va passer à la prochaine, regardez. En anglais, c'est simple, c'est tulip. Si vous aimez les fleurs, c'est tulipe, d'accord ? C'est total depravity, unconditional election, limited atonement, irresistible grace and perseverance of the saints. Donc, c'est très facile à retenir si vous aimez les tulipes, d'accord ? Et si vous parlez l'anglais. Alors, je termine juste avec encore une petite chose avant de passer à la Sainte-Seine. Recule un petit peu. Là, on a vu Calvin, on a vu Genève. Parlons un petit peu de la Réforme. La Réforme, c'est ce mouvement qui a envahi une grande partie de l'Europe, pas toute, d'accord ? Qui a provoqué malheureusement beaucoup de sang. Au fait, on nous dit qu'aucun pays dans le monde n'a versé plus de sang pour l'Évangile que la France. Et moi, j'ai souvent dit ça, moi je trouve qu'on a une dette envers la France. Tous ces réformateurs, la plupart étaient des Français. Et aujourd'hui, la France, pour trouver des chrétiens, il faut vraiment y aller, quoi. Beaucoup de gens, il y a par exemple un historien français, Bost, qui écrit l'histoire des réformés de France, il dit qu'avec le massacre et l'expulsion ou le départ des protestants de la France, que la France a perdu son âme. C'est fort. Mais c'est vrai qu'il y a eu vraiment c'était terrible ce que la France a vécu pour l'Évangile. Alors, ces réformateurs, qui ont beaucoup souffert, eux ont voulu, comment dire, c'est quoi le mot ? Vous savez qu'on réduit quelque chose en quelque chose de petit. Ils voulaient réduire ce qu'eux croyaient en cinq points aussi. C'est ce qu'on appelle quelque part la devise de la réforme. Si vous êtes protestant, évangélique, vous allez pouvoir dire amen à ces cinq points. Là, il n'y a aucun doute. D'accord ? Et c'est ces cinq points qui ont devenu vraiment la devise de la réforme. Regardez, c'est vraiment intéressant. Ils ont exprimé leur conviction en cinq formules simples mais puissantes en latin et chacune commence avec sola, seul. Regardez, numéro un, soli deo gloria. Soli deo gloria. Dieu est le seul qu'il faut adorer et qu'il faut prier. Dieu est le seul. Exode 23, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne feras point d'image taillée. Bien sûr, il réagissait contre l'idolâtrie, où tellement de statues et de saints et de choses dans l'Église catholique étaient utilisées pour le culte. Non, Dieu seul. Est-ce que je peux entendre un amen ? Amen. Numéro 2, sola gratia. Sola gratia. Le salut n'est pas le résultat de nos efforts ou de nos mérites, mais s'obtient par la grâce seule. La grâce seule. Mes amis, là, j'ai des frissons à y penser. Ça, c'est le cœur. Ces cinq points sont le cœur de ce que nous sommes et ce que nous représentons. Éphésiens 2, 8 et 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Nous proclamons un évangile de la grâce. Moi, je parlais avec quelqu'un récemment, et il me disait qu'il était assez religieux. Je lui dis, écoute, ta religion ne sert à rien. J'ai dit, abandonne tout et arrête. Et il était un petit peu surpris. Je dis, moi, je déteste la religion. Moi, je suis pasteur. Il dit, mais je comprends pas. Je dis, ben oui, parce que la religion te dit que si tu fais des bonnes œuvres, Dieu va te regarder et te dire un jour, ah, c'est bien. Toi, tu rentres pas. T'as pas fait assez de bonnes œuvres. Mais c'est ridicule. Un péché est trop pour accéder à un Dieu parfaitement et totalement saint. Donc la seule manière que nous pouvons accéder à un Dieu parfaitement saint, c'est d'être déclaré saint, pur et pardonné. Il n'y a que Christ qui peut faire ça. Ça, c'est le message de la grâce. Je ne peux qu'être gracié par Dieu par l'acte de sa rédemption. Et là, il était comme ça. C'est super. Super à voir. Trois. Sola Christus. Sola Christus. Seul Christ, Jésus-Christ, est le seul médiateur entre Dieu et nous les hommes. 1 Timothée 2, verset 3. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Mes amis, il n'y a qu'un médiateur, sola Christus, celui qui est mort et ressuscité pour notre péché, est le seul qui peut nous offrir cette grâce du salut. Donc, sola soli deo gloria, soli, sola gratia, mon latin n'est pas très bon, d'accord ? Sola gratia ou gratia, je ne sais pas si c'est plutôt italien ou français, qui peut m'aider ? Gratia ? Grazie, d'accord ? Solus Christus, c'est plus joli en italien, je trouve, non ? Soli Christus, d'accord ? Quatre. Sola fide. Le salut n'est pas donné par les sacrements, ni comme résultat de bonnes œuvres, mais par la foi seule. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et dernièrement, sola scriptura, la Bible est l'autorité suprême en matière de doctrine et de foi. Jean 17, 17, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est vérité. Mes amis, j'aimerais vous montrer quelque chose. Voici une Bible, ça s'appelle The Geneva Bible, elle est en anglais. John Knox était un réformateur anglais, il est venu à Genève pendant 3 ans, il a produit cette Bible. Première Bible dans le monde avec des commentaires, elle est en parfait état cette Bible. Il y a des commentaires, il y a toutes sortes des marges, des versets, derrière il y a des cartes, des plans, il y a toutes sortes de trucs intéressants. Je vous la montre parce qu'il y a des années en arrière, je donnais un tour de la Réforme et je parlais de cette Bible parce que sur le mur de la Réforme, il y a un bas-relief où cette Bible est représentée sur le bas-relief américain. Vous allez voir, parce qu'il y a une fresque qui est dédiée aux États-Unis. Il m'a dit, John, je collectionne des Bibles de Genève et j'aimerais t'en donner une. Ben, je n'y croyais pas, quoi. Il a dit, tout pasteur à Genève devrait en avoir une. Ça, j'ai aimé, ça, par contre. Mais j'ai trouvé super, quoi. Alors, il est venu à Los Angeles, me l'a donné. Il m'a dit, John, chaque fois que tu parles de la Réforme, que tu donnes un tour de la Réforme, montre cette Bible aux gens et laisse-les la toucher. Elle date de 1602. Elle est en parfait état. Si vous voulez venir la voir, vous allez voir des taches. C'est des taches de bougie, de cire de bougie, parce que les gens lisaient la bougie. Et la raison que vous avez besoin de venir la voir et la toucher, la prendre dans vos mains, mes amis, c'est parce que c'est pour ça que tous ces gens sont morts. De pouvoir tenir une Bible te coûtait ta vie à l'époque. Ta vie. Et cette Bible est peut-être une Bible qui a été tenue par quelqu'un qui est mort. J'en sais rien du tout. Voyez-vous, sola scriptura, pour eux, ça voulait dire autre chose que pour nous. Avec 3 clics aujourd'hui, tu peux avoir des milliers de Bibles sur Internet. À l'époque, une Bible te coûtait ta vie. Dans le mur de la Réforme, dans le musée de la Réforme, il y a une salle dédiée aux persécutions. Et il montre comment les gens mouraient et comment les gens cachaient leur Bible. Sola scriptura. Moi, ça me prend toujours les tripes, quoi. Parce que je me dis que si moi, j'avais été pasteur à cette époque, je serais mort depuis longtemps. Meg serait à la tour de Constance, emprisonnée, et nos enfants auraient été envoyés dans les couvents pour être, comment dire... Laver du cerveau, allez, c'est ça. Moi, j'aurais été mort sur le supplice de la roue. Les pasteurs, ils recevaient ça. Sola scriptura. Si la persécution revient un jour, qu'est-ce qui va se passer? On tient pas?